Chapitre 3. Un jour qu'il réfléchissait amèrement sur le malheur de sa destinée, la tête dans ses mains et les deux coudes sur la table, Madame Renaud entra. Il releva sa figure triste et la regarda d'un air étonné, avec des pleurs dans les yeux. « Ah, c'est vous ?» lui fit-il. Elle répondit avec une douceur étrange. Oh, « Je vous importune, dites. » Le rayon de la lune brillant au fond d'une mer d'azur n'a jamais été plus doux que son regard, et sa voix était suave comme le soupir du vent sur les cages jasmin. Oh, « Je m'en irai, » ajouta-t-elle. « Vous ? » répondit-il, « vous ?» Puis comme elle ne disait rien, « Vous savez bien que non. » Elle se rapprocha de lui. Il était assis, il détournait la tête et la regardait de bas en haut comme une madone. Elle, debout, baissait ses yeux vers lui et le regardait avec son sourire. « Mais vous savez bien que non » répéta-t-il encore une fois à de longs intervalles. « Vous savez bien que non !» Elle avait fait un pas, son souffle descendait sur le front d'Henri. Il voyait sa poitrine respirer, il entendait presque battre son cœur. Lentement, oh, cela se fit sans qu'il y pensât, et avec la facilité surnaturelle que nous éprouvons dans les rêves, il leva le bras, l'étendit, et le lui passa autour de la taille. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Pourquoi ? » Il l'entraînait doucement vers lui. « Mais parce que je vous aime !» Elle se laissait faire. La tête renversée, il la contemplait en tremblant, pâle et balbutiant comme dans la fièvre. « Vous m'aimez ? Vous m'aimez ? » dit-elle à voix basse, les yeux mourants et comme enivrée de ses propres paroles. Et elle se pencha sur lui, passa lentement ses deux mains moelleuses dans ses cheveux et le baisa au front, sans bruit, les lèvres collées, le serrant sur sa bouche. Henri, la tenant embrassée dans ses bras, la tête sur ses seins, humait le parfum de sa peau et sentait son cœur se fondre. Se redressant, tout à coup elle l'écarta de lui. « Grand Dieu, qu'ai-je fait ? Mais qu'ai-je fait ? » dit-elle d'une façon plaintive et désespérée. Henri bondit et lui rendit son baiser. « M'aimes-tu ? » disait-elle. « M'aimes-tu bien, Henri ? Dis-le-moi. Dis-le-moi encore. Jure-le-moi. » « Et toi, » répondait-il, « m'aimes-tu aussi ? Oh, dis-moi que tu m'aimes. » Et sans pouvoir parler avec ses faibles mains, elle lui pressait les siennes, les doigts entrelacés dans ses doigts. « Non, 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 laisse-moi, je t'en conjure, laisse-moi, ne me touche pas, ne m'approche pas, je m'en vais. » Elle se dégagea de lui. « Non, je t'en supplie, ne me regarde plus, tes yeux me font souffrir. Oh, mon Dieu, on nous a vus peut-être, si quelqu'un entrait, tes rideaux n'étaient pas fermés. « Que vais-je devenir ? Adieu, adieu, laisse-moi partir, ne me retiens pas. Oui, oui, je reviendrai ce soir, tantôt, bientôt. Adieu, adieu, oui, oui, je t'aime, mon Henri. » Et de la porte, elle lui envoyait 1000 baisers. Restés tout stupides dans sa joie, et savoir dans son âme le goût nouveau de ses caresses, Henri ne savait que devenir. Il avait peur de remuer, peur de lever la tête. Il frissonnait comme épouvanté. Peu à peu, le calme lui revint et la conscience de son bonheur s'éveilla. Son image, par hasard, s'offrit à lui dans la glace et il se trouva beau, plus beau qu'un homme. Il se leva et il se sentit fort, assez pour renverser le monde à lui seul. Elle l'aimait. Il s'aimait lui-même, il était grand, il était magnifique, il dominait tout, il pouvait tout, il aurait volé avec les aigles, il se fût jeté à la gueule des canons. L'univers lui apparut alors dans une perspective lumineuse, tout plein de gloire et d'amour. Et sa vie à lui, entourée d'une auréole, comme le visage d'un dieu. Le bonheur planait sur lui-même et le recouvrait en entier. Il sortait de tout, il filtrait des murs, il brillait comme le jour. Henri le respirait comme on respire l'air. On l'appela pour dîner. Il sortit à regret de sa chambre et, se séparant d'elle, la bénit comme le berceau du nouveau-né. À table, il ne mangea pas. Oh oui, manger. Oh, il ne pensait guère. Il la regardait d'un air calme, composant son visage et souriant dans ses entrailles. Monsieur Renaud lui parla et il ne lui répondit point. Alvarez le pria de lui passer les légumes. Il les laissa tomber sur la nappe. Il bouscula Mendès, il fut brutal et taciturne. C'est qu'il craignait que sa joie n'éclatât tout d'un coup et qu'il lui prenât des envies de chanter et de pleurer. À peine au dessert, il s'esquiva. Ne lui avait-elle pas dit qu'elle reviendrait le soir? Monsieur Renaud en fut tout étonné. « Il n'attend plus même que nous ayons fini. Il devient plus drôle de jour en jour. Sais-tu qu'est-ce qu'il a, ma femme ?»«
Ce jeune homme a peut-être des chagrins, » répondit Madame Renaud, avec plus grand sang-froid du monde.
« Des chagrins? Mais quel chagrin! Il n'y a pas longtemps qu'il a reçu des nouvelles de sa famille. Ah, oh, ça! Composerait-il un mélodrame, qu'il a ce soir l'air si farouche ?»
Et il se mit à rire, Alvarez et Mendès rirent.
Saint-Logis-Schmach ne comprit pas. Quand chacun se fut retiré chez soi, et que les lumières de toutes les fenêtres de la maison se furent éteintes, Henri entendit dans l'escalier le foufou d'un jupon et des pas légers qui montaient. La porte tourna légèrement.
« Ah, merci. Oh, je croyais déjà que vous ne viendriez pas. Enfant que vous êtes, vous m'avez déjà fait tant souffrir.
Moi ?
Oui, l'autre jour, aux Tuileries.
Ah, vous y avez été.
J'ai cru à mourir de chagrin. Je vous ai attendu 3 heures. Je me damnais.
Voyons, soyez sage, lui dit-elle en souriant. Asseyez-vous là, près de moi.
Écoutez, Henri, m'aimez-vous? Si vous me trompiez, ce serait odieux. Dites-moi si vous m'aimez.
Mais je vous l'ai dit 100 fois. Depuis 2 mois, ne l'avez-vous pas deviné?
Oh, si vous saviez toutes les nuits qui se sont écoulées à rêver de vous, tous les jours que j'ai employés à songer à vous. Le soir, quand vous ouvriez la fenêtre pour fermer vos volets, j'étais là, moi, à la mienne. Je vous voyais, puis je vous entendais marcher. Et la nuit, quand je m'éveillais, je me figurais vous voir endormi, et que peut-être aussi, comme vous alliez passer dans mon sommeil, je passais dans le vôtre.
Mais vous ne vous trompiez pas, ami. Le premier jour que je vous ai vu, il me semble que c'était hier, je vous vois encore, vous étiez là, sous le vestibule. C'était le matin. Nous entrâmes, vous vous mîtes à nous saluer. Tenez, vous aviez cette robe-là. Vous étiez nu-tête. Vos yeux m'ont troublé, ils me lançaient des rayons qui m'entraient au cœur.
Oh, vous êtes bon, dit-elle. Vous me regardiez en effet d'une façon qui me ravissait, Henri. Il y avait quelque chose qui me disait que je vous aimerais, que nos deux âmes se comprendraient, et je ne suis pas trompé, n'est-ce pas? Je puis compter sur vous. Je suis seul, moi. Personne ne m'aime. Vous, vous me soutiendrez, vous m'aimerez. Vous serez mon ange.
Henri tomba la tête sur ses genoux et y pleura de joie. « Oh mon Dieu, mais je ne peux pas dire ce que j'éprouve. Mais regarde-moi, aime-moi. » Il prenait ses mains, les couvrait de baisers. Plus calme que lui et triomphant de sa faiblesse, Modère-toi, ami. Oui, nous serons heureux, nous nous aimerons. Oh, ne pleure pas, tu rougis tes beaux yeux. » Et elle le pressait comme un enfant qu'on console. Après un long silence, « Il y a longtemps, 6 mois, que je t'aime. D'abord, j'éprouvais du plaisir à regarder ta figure. Quand tu n'étais pas là, je repensais, et peu à peu, toute autre idée me devint insupportable. La moindre chose me faisait songer à toi. Je te retrouvais partout. Te souviens-tu de ce soir où nous avons causé si longtemps ensemble dans le salon ? Je regardais les mots qui sortaient de ta bouche. Je te considérais avec étonnement. Tu étais beau, tout harmonieux comme un chant. Oh, si je m'en souviens, si je m'en souviens. » Elle continua. « Mais tu ne t'apercevais de rien, toi. Oh, je voyais bien que tu m'aimais, mais que tu ne devinais pas que je t'aimais. Mon mari. » Oh, votre mari. Pouvez-vous appeler de ce nom cet homme vulgaire qui... » « Tais-toi, » dit-elle d'un air grave. « Tu le connais mal, il est bon, généreux, il m'aime. »« Vous aimez, lui ? » ?»« Mais n'en parlez pas, ne suis-je pas sa femme ? Ne dois-je pas lui être fidèle ? » ?»« Oui, son cœur répugne au mien, il ne m'a jamais comprise. » Il ne connaît l'amour que dans ce qu'il a de brutal et d'odieux. Je l'ai en horreur, mais si tu savais. » Elle cacha sa tête dans ses mains, puis avec son sourire et passant son bras autour du cou d'Henri, « Il n'est pas comme toi, va. Il n'est pas jeune, ni beau, ni grand. Il n'a ni ta belle âme, ni tes traits si fins. » C'était un charmant spectacle, en effet, que cet ardent jeune homme, avec sa figure douce, égarée et tout son corps en désordre. « Non, c'est toi qui es belle, » disait-il. « Je mourrais en contemplant tes sourcils, et tout supplice me serait doux, tant que tes yeux seraient fixés sur les miens. » Et il en restait là, béant et affamé, devant ce mets qui fumait pour lui seul. Elle lui parlait de ses devoirs d'épouse et de la chasteté de son amour, tout en repoussant faiblement ses étreintes timides. Il était pusillanime comme une vierge et enflammé comme un homme ivre. L'amour, quelquefois, est si fort qu'il touche à l'innocence et en a toutes les allures. « Sois prudent, enfant, observe-toi. Il faudra nous cacher au monde. Le monde est jaloux et méchant. Te méfier de tous. » Oh, si notre bonheur était connu, il n'existerait plus pour nous. Prends garde de rien laisser paraître. Nous vivrons ainsi heureux, réunis par le cœur au milieu de tous ces gens égoïstes ou stupides. La vie nous sera plus douce, supportée à deux. Allez, adieu, pense à moi. Il faut te quitter. Il y a longtemps que je suis là. » Et elle sortit. Henri comprit bien qu'il venait de faire une faute. Il s'en voulut et s'en gronda fermement. Puis il s'en loua et s'en estima davantage, tournant sa timidité en vertu et sa sottise en délicatesse, comme cela arrive toujours. Qu'importe, la nuit qu'il passa ensuite, pour être veuve de volupté charnelle, n'en fut pas moins belle et enviable. Adorable bêtise de l'amour. Il ne se coucha que vers 2 heures du matin, après avoir écrit 5 pages enflammées à la dame de son cœur. Les amants ont la rage d'écrire. Pour peu qu'ils soient gens de lettres, c'est un déluge de style. Peut-être se dupent-ils eux-mêmes, et leur passion n'est-elle qu'un sujet de rhétorique qu'ils prennent au sérieux. Un homme de goût ne peut faire grand cas de toutes ces balivernes sentimentales, si seulement écrite, si sottement écrite d'ordinaire, et qui plaise tant aux dames. Je ne m'adresse pas ici aux écoliers de 4e, ni aux couturières qui lisent George Sand et ont pour amant des clercs d'avoués, mais aux gens d'esprit qui en ont écrit eux-mêmes, qui en ont reçu et qui ont beaucoup vu.
La passion ne se peint pas plus elle-même qu'un visage ne fait son portrait, ni qu'un cheval n'apprend l'équitation. Quand Saint Preux et Don Juan venaient au monde, et qu'ils naissaient lentement à cette vie idéale que nous admirons, les pères qui les façonnaient ne songeaient pas aux yeux de leurs voisines, ni aux soins facétieux d'en obtenir quelque chose. Et vous croyez, mon beau monsieur, parce que vous avez les joues en feu et le cerveau chauffé, parce que vos prunelles brillent comme des charbons et que vous écrasez des becs de plumes sur du papier blanc, vous croyez émouvant, comme Jean-Jacques est lyrique, comme Byron. Allons donc, bourgeois, allons donc, bourgeois. C'est insulter l'art, c'est gâter le plaisir. Que votre bouche ne se pique pas de dire de belles paroles, mais de donner de bons baisers. Que vos mains quittent la plume, leur place est ailleurs. Arrière, canaille, hors d'ici, gouspin, qu'on me chasse ces drôles, qu'on les jette par la fenêtre, qu'ils se fassent philanthropes et qu'ils écrivent sur les prisons en bon vieux style épais. Or, supposant le lecteur aussi gourmet que nous, on lui fait grâce de toute correspondance amoureuse, malheur inévitable dans un livre, chose plus assommante pour nous qu'un gâteau de Savoie ou qu'une dinde au marron. Ils ont bien leur charme pourtant, ces petits morceaux de papier chiffonnés, qu'on se glisse dans la main et qu'on lit le soir, sous les réverbères à la lueur des boutiques, qu'on relit rentré chez soi, qu'on relit 6 ans après avec une tendre larme. Eh bien, voici quelques échantillons de ce qu'Henri et Madame Renaud s'échangeaient. Je t'ai rêvé cette nuit, j'ai été heureuse et toi? Il sortira tantôt à 3 heures. Ce mot « il » signifie toujours le mari, le tyran, la maladie à éviter. Exemple, prenez garde à vous, il vous surveille. Venez demain, il monte sa garde. Oh, je crains quelques malheurs, il est triste et paraît préoccupé, etc. Le soir, en passant derrière elle, il lui remettait un autre morceau de papier. Heureux, non, je ne suis pas heureux, je vous aime trop. Il faisait du soleil tantôt, pourquoi n'êtes-vous pas descendu au jardin? Oui, je vous aime, écrivons-nous ainsi toute la journée, quand nous ne pouvons nous voir. Oh, que ta lettre hier soir m'a fait bondir le cœur, je la porte toujours sur moi, je la sens sur ma poitrine comme une caresse continue. Autre billet, écrit sur du papier très fin, roulé en petites boules. Ne lisez cela que chez vous et seul. Avant de vous connaître, j'étais comme un corps sans âme, comme une lyre sans corde. Vous êtes comme le soleil qui inonde tout de lumière et fait éclore les parfums. Je suis heureuse maintenant. La vie m'est belle. Tes yeux sont si doux, si beaux. Tu me plais tant. Tes lèvres sont si charmantes et si gracieuses. Réponse. Depuis que vous m'avez enivré de vos regards, ô mon ange, je suis un autre homme. C'est bien vous qui êtes le souffle de vie qui m'avez animé. Avant de vous connaître, j'étais une chose, une statue. C'est vous qui, depuis 2 jours, m'avez fait plus vivre que je n'ai vécu depuis 10 ans. Est-il vrai que vous m'aimez? Puis-je me repaître à mon gré de cette certitude? Suis-je donc nécessaire à ton existence? Mais dis-moi, fée d'amour, qui donc t'a appris ces mots qui ravissent? Où as-tu puisé cette poésie du cœur que j'écoute comme un chant du ciel? Ne semble-t-il pas que, comme 2 anges qui montent vers Dieu, quelque chose nous pousse incessamment et nous élève, radieux, dans un infini de bonheur? Ils auraient continué ainsi, jusqu'à la consommation des siècles, et ils usèrent bien une rame de papier « women » à s'écrire les choses de ce style. Madame Renaud paraissait ne pas vouloir aller au-delà, mais Henri n'osait. Bon, peut-être n'y pensait-il ni l'un ni l'autre. Ils étaient heureux de se dire qu'ils l'étaient, heureux de se regarder longuement, de vivre côte à côte, de s'aimer en secret, de s'écrire, de se rêver. Henri avait quitté toute étude.
celle du code civil et des instituts, comme celle de l'histoire et de la littérature, il ne songeait plus à rien. Il n'enviait plus rien. Quelquefois, cependant, il aurait voulu être riche pour passer sous ses fenêtres, monter sur un andalou noir qui sautille sur le pavé comme une levrette. Elle aimait les fleurs. Les fleurs, hélas, ne sont faites que pour les riches. Eux seuls sentent les roses et portent les camélias. Ils en achètent qui sentent l'ambre et la vanille et les effeuillent sur le sein de leur maîtresse et le lendemain, ils leur en donnent de nouvelles. Mais les petites gens ne connaissent de tout cela que ce qu'ils voient de loin, à travers les grilles de fer d'un jardin public ou le vitrage d'une serre du jardin des plantes. Henri donc achetait des bouquets de 10 francs, cadeau qui le ruinait. Il s'habillait avec recherche, il se peignait 20 fois par jour, il se faisait friser et puis se défrisait avec soin pour donner à sa chevelure un air élégant et négligé. Il se lavait les dents avec une eau parfumée, il s'en lavait le cou et les mains, il faisait des toilettes pour l'attendre quand il supposait qu'elle devait venir. Elle venait. Quelquefois, c'était le matin, encore en bonnet de nuit, dans sa robe flottante et sans corsage, avec la fraîche odeur du linge fin, le visage clair, lavé d'eau froide, les mains roses et les pieds dans de petites pantoufles de peau brune recouvertes de fourrure. Cette femme-là vraiment était d'un ragoût étrange. Sa peau exhalait d'elle-même un parfum doux, vapeur de beauté qui monte à la tête comme le bouquet de vin fameux. Son pied avait 100 milliardises que trahissait sa chaussure, et l'on pressait sous son vêtement des délicatesses sans nombre. Taille vigoureuse, propre au bond soudain et aux élasticités déchirantes, bassin large, hanches saillantes et rondes, sein dur, ventre souple, et toute la force de la santé, et toutes les grâces de la langueur, et toutes les voluptés de la femme mûre. Souvent, Henri, sortant du dialogue et emporté par l'âge, l'étreignait avec fureur et la couvrait de ses regards de flamme où tout le cœur flamboie, puis suppliant, plus suppliant qu'un condamné, plus doux qu'une colombe. Il adorait surtout ses cheveux. Elle lui laissait passer sa main dessus. Il caressait cette ébène unie et la lissait sous ses lèvres. Mais elle lui disait « Enfant !» Elle l'appelait toujours « Enfant !»« Ta folie t'emporte. Pourquoi te faut-il plus que mon cœur ? Je n'ai rien à te donner au-delà. Aimons-nous d'un chaste et pur amour. À quoi bon ces liens de la chair où se prennent les natures viles ? Est-ce là ce que tu m'avais promis ?» Et elle s'en allait ensuite, ayant longtemps attendu une réponse qui n'était pas venue, et qui sait, peut-être même une réfutation triomphante. Henri se disait alors, « Mais pourquoi irais-je troubler cette eau pure, faner cette fleur ? Pourquoi, afin de satisfaire l'appétit d'un moment, la plonger dans la honte et les regrets ? Ce serait pour moi la descente de ce piédestal où mon amour l'a posée, elle-même de l'amour des anges. Le ciel n'est-il pas assez vaste ? Cet amour n'est-il pas assez doux ? Et puis, par une réaction ordinaire, il en venait à jurer horriblement et à frapper du pied de façon à défoncer le parquet. Ce juron voulait dire que l'eau pure est faite pour désaltérer et les fleurs pour être senties, que l'amour des anges n'est pas celui des hommes et qu'il était homme et qu'en conséquence, etc., etc. Et après quoi, il allait voir Morel et lui parlait de sa bonne fortune, de l'adorable maîtresse qu'il avait, du bonheur de ses nuits. Et puis ils riaient beaucoup ensemble sur le compte de Mendès et d'Alvarez, qui, amoureux tous deux, ne trouvaient rien de mieux à faire pour satisfaire leur passion que de copier des vers et de jouer de la flûte. Jules à Henri.
Grande nouvelle, grande nouvelle. Il y a ici une troupe de comédiens. On va jouer mon drame. Oui, Henri, mon chevalier de Calatrava, qui est fini, terminé. J'ai fait le cinquième acte cette nuit. Je viens de me réveiller. Je suis encore tout étourdi et endormi. Je compte surtout sur la scène des tombeaux, comme est fait. Tu verras ça. Voici du reste comment tout cela est arrivé. Un matin, que je me promenais du côté de la rivière, je vis de loin, assis sur des troncs d'arbres abattus, une espèce de gaillard vêtu d'une redingote à brandebourgs qui fumait tranquillement sa pipe en contemplant le paysage. Quand je passais près de lui, il se leva et m'aborda avec aisance en me demandant du feu. Il fumait une petite pipe en écume de mer, à gland d'or, d'assez mauvais gala, et portait sur la tête une casquette de toile cirée. Il avait de longs cheveux, parlait vite avec un accent méridional un peu dur et criard, mais toute sa personne avait quelque chose de franc et spirituel qui plaisait fort à première vue. Je l'aurais pris volontiers pour quelque dentiste en voyage ou pour un commis voyageur de haute volée, mais il m'apprit bientôt qu'il était, sans que je lui eusse demandé. C'était M. Bernardi, directeur actuel de notre théâtre. Tu penses bien dès lors que nous causâmes littérature, théâtre. Il connaissait tous ceux de Paris et en parlait en maître, semant son discours de traits hardis, de remarques neuves, critiquant les réputations établies et m'en révélant d'inconnus. Les gens qu'il admirait n'étaient peut-être pas ceux que j'admirais le plus et réciproquement. Ainsi, il déteste les drames en vers, prétendant que la prose va mieux à la scène. Le hasard voulut que, le lendemain, je le rencontrasse à la même place. La conversation se renoua de plus belle et sur les mêmes sujets que la veille. Bernard est un jeune homme, il n'a pas plus de 38 ans. C'est un bon diable, fort gai, bon vivant, s'il en fut. Il parle de femmes comme on parle de chevaux. Oh, nous avons beaucoup ri ensemble. Et nous devînmes vite les meilleurs amis du monde. Chaque jour, pendant une semaine, nous nous promenions ensemble, le matin et le soir. Nous nous rencontrions encore au café. Il était enchanté, disait-il, de trouver quelqu'un avec qui causer, car il déteste la province. En cela, je suis bien de son avis. Il me donne mes entrées gratuites, mais je n'osais trop en profiter, quand un jour, dimanche dernier, m'ayant engagé à le suivre à une répétition, je l'accompagnais, et c'est là que commence cette longue histoire que je t'envoie. Quand nous entrâmes dans la salle, tout était vide. Dans les loges, les banquettes étaient relevées, les portes ouvertes, les grilles à demi abaissées, à peine y voyait-on. Un jour faux et éclatant, tombait d'en haut sur le parterre, et, passant entre les décors, traçait de longues lignes de lumière sur les planches de la scène. Un grand rayon de soleil, entré par un trou de la muraille, traversait en diagonale tout le théâtre. Une poussière dorée, remuante, montait en tressaillant dans cette ligne droite. Un quinquet de la rampe, frappé par lui, brillait et éclairait comme allumé. On marchait dans les corridors, on appela deux ou trois noms, j'entendis sonner une clochette. Les acteurs arrivèrent et la répétition du vaudeville commença. Je m'étais assis dans les coulisses sur une caisse qui se trouvait là, et je touchais les décors avec mes mains. Je regardais les acteurs et les actrices de près. Je regardais la salle vide et je me la figurais pleine, grande, mille fois plus grande, éclairée, remplie de bruit, éclatante de lumière et de couleurs. Je humais à pleine poitrine cette odeur de théâtre qui est un de mes amours de mon enfance. Ou bien, la tête levée au ciel, n'écoutant guère la pièce et flottant alors dans je ne sais quelle capricieuse rêverie mêlée d'art et d'amour, fantaisie charmante où l'on sent des émanations voluptueuses, où l'on entend des bruits de fanfare, je contemplais la frise du marteau d'Arlequin,
tremblait au vent frais qui venait du dehors par les fenêtres ouvertes et faisait frissonner les feuilles des marronniers qui ombragent la place d'armes. Bernard vint me trouver et me demanda ce que je pensais de son monde. Il paraît que je lui répondis par une sottise et qu'il fut content, car me prenant par la main et me conduisant vers deux femmes assises dans le haut de la Seine sur un banc rustique, « Que je vous montre, m'a-t-il dit, les deux perles de mes couronnes, la mère et la fille, Madame Pernelle et Elvire, Philabate et Donia Sol, Madame Artémis et Mademoiselle Lucinde. Mesdames, ajouta-t-il d'un ton plus sérieux, permettez-moi de vous présenter, monsieur, un de mes amis de cette ville, un amateur distingué qui admire fort les beaux talents et adore les jolies femmes, deux motifs pour faire votre connaissance. » La plus vieille sourit, la jeune fille, sans se lever, me fit un signe de tête. Elles étaient toutes deux recouvertes de châles qui les enveloppaient comme des manteaux, et à cause de l'obscurité qu'il faisait dans le fond du théâtre, je ne voyais presque rien de leur figure, si ce n'est les yeux de la vieille qui brillaient dans l'ombre sous son chapeau, en causant avec Bernardi, et le vague profil de l'autre qui semblait étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle. Un décor qu'on dérangea l'éclaira tout à coup, et je la vis en entier. Il était nu-tête, de longues papillotes à l'anglaise, d'un blond cendré, tombait avec une grande exquise sur ses épaules décolletées qui frissonnaient comme si elle eût froid au sommeil. Elle grelottait en effet et s'enveloppait dans son grand châle bleu qu'elle serrait sur ses membres. C'était un vieux cachemire à longues franges rouges qui lui prenait toute la taille, les bras et le derrière de la tête. Elle l'avait ramené ainsi par-dessus son peigne et se tenait immobile, sans rien faire, occupée seulement à regarder le bout de son pied avec lequel elle battait le sol à petits mouvements saccadés. Son soulier de satin blanc bruissait en sériflant sous sa robe, une robe bleue semée de fleurs blanches, avec un grand falbalas qui partait un peu au-dessous du genou et en indiquait le contour. Elle avait aussi des bas à jour brodés sur les côtes, et sa chaussure était si mince et si fine qu'on eût presque dit son pied nu, ou plutôt ganté que chaussé, car il semblait flexible et doux comme une main. La belle tête, Henri, et quelle ravissante créature, c'était là. Oh, je te dis tout haut ça, longuement, mais il fallait la voir avec ses grands yeux aux paupières baissées et son front pensif. C'est celle-là qu'on aimerait avoir dormir sous la soie, dans un lit d'ébène, à couvrir de fleurs pour que les roses soient moins roses que sa peau, à couvrir de diamants pour qu'on les rejette ensuite, leur préférant le doux éclat de ses prunelles. C'est elle qu'il faudrait promener l'été dans un landau verni à quatre chevaux, doucement bercé par des soupentes élastiques, étendue sur la plus soyeuse coire, vêtue de mousseline fraîche et parfumée comme un bouquet. Ah, le luxe lui irait bien. Elle inspire une étrange envie d'être riche, riche pour elle, riche afin que sa vie s'écoule sans entrave et sans choc violent, et douce comme ses songes où l'on entend de la musique. Oui, elle est faite pour passer sa vie couchée dans un hamac, afin que les plus douces brises la remuent, en même temps que la tige des fleurs et que les blondes vagues des blés, au-delà des demeures des hommes, au-dessus des nuées, plus haut que les plus hautes neiges, enveloppées de son amour, et de là planant sur le monde comme du haut du ciel. C'est avec elle qu'on devrait se sentir monter vers les étoiles, vers la lumière, vers l'éternelle extase, d'un vol plus rapide et plus tranquille que celui des aigles et des ramiers sauvages, et, confondu à son âme, se dissiper comme l'encens qui s'en va lentement, toujours,
en montant pour mourir dans un espace pur et sans limite. Et puis, quel artiste! Oh, le soir, je l'ai vu jouer dans Antony le rôle d'Adèle Hervé. Elle a une façon extraordinaire de parler, un peu traînarde. Elle chante la fin des mots et les accentue comme en psalmodiant des vers. Mais parfois sa voix, qui se module comme une flûte, éclate précipitée en cris déchirants ou bondit dans la colère avec des sanglots désespérés. Puis tout à coup, ces quelques soupirs qui arrivent, un mot tendre, plein de langueur, lui passe sur ses lèvres, ainsi que dans un orchestre, ses petites notes endormies et voluptueuses lui traversent l'air. Après le large ouragan des violoncelles et le mugissement des cuivres. Et j'étais à l'avant-scène, sur le premier banc, penché vers la rampe. Je sentais dans mes cheveux le vent que faisaient ses vêtements quand elle marchait. Je levais la tête et je la contemplais de haut en bas. Et quand le rideau a été baissé, oh, j'ai été voir Bernardi sur le théâtre, et elle, je l'ai vue aussi. Je l'ai aperçue dans sa loge, encore toute tremblante de l'émotion de son rôle, agitée, souriant sous les bravos qui duraient encore, et renouant un bandeau de ses cheveux qui était tombé pendant la dernière scène. Il y avait une bonne recette, c'était un dimanche. Bernardi était fort gai, on allait souper tous ensemble, et moi, je remontais toutes nos rues et regagnais tristement la maison, avec un vide affreux dans l'âme. J'aurais voulu aller avec eux, vivre avec eux, être comédien moi-même, jouer avec Lucinde, être l'Antony qui la tutoie et qui la presse dans ses bras. Oh! Comme je maudis ma vie régulière et ma famille. Pourquoi le ciel ne m'a-t-il pas fait naître, seul et pauvre, mais libre au moins, comme le bohémien et comme le pâtre? J'étais fort, il me semble même que la misère m'eût grandi. Je revenais sans cesse à ma rencontre du matin, à la répétition où j'avais assisté, à la représentation de la soirée, à Bernardi, à Lucinde, à tout le reste, aux acteurs, aux comparses, à deux ou trois figures banales de domestiques ou de gendarmes que j'avais vues à la porte du théâtre et qui me poursuivaient avec la même fidélité que les autres. Toute la nuit, je ne dormis pas, jusqu'au jour où je retournais sans cesse dans mon lit, agité, inquiet, pensant à tout cela, à mille autres choses encore. Quelquefois plein d'espoir, amoureux, rêvant de gloire, d'autres fois désolé, désespéré, prêt à mourir, ou bien esquissant subitement quelque grande œuvre à faire, en mesurant toute la hauteur, en sondant toutes les profondeurs. Les toits d'en face, encore mouillés par une petite pluie qui était tombée dans la soirée, brillait d'un sombre éclat sous les rayons de la lune entrant par ma fenêtre, dont les rideaux étaient restés ouverts. Il se jouait sur les pieds de mon lit, dans les plis de ma couverture, et je songeais à cette lueur étrange qui, dans Virgile, arriva sur le fantôme sanglant d'Hector et illumina sa pâleur au regard épouvanté d'aîné. Le lendemain, comme j'allais à mon bureau, je rencontrai Bernardi qui allait déjeuner au Café Français. J'allais avec lui, c'est moi qui payais, et il devina que je devais écrire. Je lui exposai le plan de mon drame et je lui en récitai même une scène par cœur. Il en fut enthousiasmé. « Mais voulez-vous que nous le donnions ici ?» me dit-il. « C'est Lucinde qui fera donner à Isabelle. Voyons, décidez-vous, hardi. Enlisez-nous ça ce soir, après le spectacle. » Je ne répondis rien. « Eh bien, qu'avez-vous ? Est-ce convenu ? » reprit-il. Je lui serrai la main sans mot dire, et je le regardai fixement pour voir s'il ne riait pas, étonné que j'étais comme un pauvre à qui un homme serait venu dire « Veux-tu être riche ?» Je ne pouvais me retenir de sourire, tant j'avais de joie dans l'âme.
Il était déjà 1 heure. Oh, n'importe. Je le reconduisis jusqu'au théâtre. Je regagnai ma galère. J'y entrai avec un dédain triomphant. Oh, j'avais peine à ne pas éclater de rire. Mon chef de bureau se mit à me gronder vertement sur mon inexactitude. Il eut accompagné le reproche d'un soufflet que je ne lui eusse pas rendu, tant j'étais heureux et joyeux, tant je me sentais grand, fort et riche, tant j'avais compassion et pitié du pauvre diable qui me parlait. « Bon, je ne t'en veux pas, me disais-je à moi-même, ni de ta bêtise, ni de ton insolence. Écris en paix, commis, fouille tes chiens, valet, je n'en suis plus. » « Allons, bonhomme, taille ta plume, tais tes chiffres, gagne ton pain, pauvre brute, pauvre imbécile, hein, ça va. » Et les murs tachés d'encre, le pupitre où je me courbais toute la journée, la chaise où je m'asseyais, le tapis de paille, les pavés usés, le grillage des bureaux et le plafond si souvent en bâillant, j'avais levé des regards désolés. Je contemplais tout cela avec étonnement, comme des objets nouveaux, me demandant si réellement j'avais vécu là, si c'était bien moi, si je ne me trompais pas. « Bon, c'est la dernière fois que j'y viens, hein, me disais-je. La dernière fois, à coup sûr. Plus tard, je m'étonnerai d'y avoir vécu. Je me rappellerai même ce temps-là avec plaisir. Car quelle vie que la mienne, quel avenir! Quelles œuvres! La dernière nuit qu'il couche au bagne, le forçat s'étale avec délice sur sa planche où il a gémi, prend plaisir à faire sonner sa chaîne. Il traîne en riant son lourd boulet, savourant en son âme toutes les âcretés de la servitude pour se les bien rappeler demain, quand il sera libre. Avec quelle joie il lèvera ses bras dans l'air! Il ira partout où il veut! Comme il marchera dans la campagne, comme il se couchera sur l'herbe fraîche. Et moi de même, Henri, j'aspirais l'odeur boueuse des encriers, je tournais rapidement les feuilles des registres, je gâchais les plumes, j'écrivais, je travaillais vite, vite, je me ravalais, je me vautrais là-dedans en riant. Et quand tous partirent à 5 heures, c'est moi qui fus le plus lent à ranger mes papiers sur mon pupitre, le dernier qui repoussa son tiroir et qui ferma la porte. À moi l'avenir, pourquoi en douterais-je? Ne s'ouvre-t-il pas superbe et facile? Le style me coule dans le sang. J'ai dans la chair cette force fluide et circulante qui vous ferait déraciner les mondes. J'ai la tête pleine d'œuvres, le cœur large et neuf, tout propre aux bons sublimes et aux immenses vibrations. J'étais délivré, régénéré. Un abîme me séparait de ma vie passée. Encore à présent, j'ai peine à concevoir que tant de choses puissent se passer en un jour. Pourquoi donc me trouvais-je tout fier, tout noble, plus digne, plus mûr, plus doux même et plus miséricordieux? L'air du ciel était chaud comme au printemps. Je revins par le boulevard. Quoique les arbres n'aient pas encore de feuilles, les oiseaux déjà gazouillaient dans les hautes branches. Je pensais à Lucinde. Il me semblait qu'elle allait m'aimer, que j'étais plus beau. Il me tombait du ciel une confiance radieuse, une joie de vivre que je n'avais jamais eue. Le soir, à 7 heures après le dîner, dont il fallut attendre la fin, je mis mon manuscrit dans ma poche et j'allai au théâtre. Il y avait pour m'écouter Bernardi, Lucinde, en ténor le jeune premier, Madame Artémise, un vieux qui fera le prieur, et puis un autre qui n'est venu qu'au 4e acte. Quand tout le monde se fut assis autour de la table sur laquelle je devais lire, je pris mon manuscrit, je l'ouvris, je lus le titre lentement et plus essoufflé que si j'avais couru. « Nous allons voir ça, mes enfants, » dit Bernardi en se frottant les mains. « Oh, d'après ce que m'a dit monsieur, il y a pour vous un rôle délicieux, belle demoiselle, » ajouta-t-il à Lucinde.
Si nous faisions un succès avec une pièce du cru, ce serait une fière affaire. Attention !» Et je commençais. J'étais éclairé par deux chandelles que je rapprochais le plus possible, car je n'y voyais guère, surtout au commencement. Le reste de l'appartement, c'était le cabinet du directeur, était sombre. Tout le monde écoutait. Bernardi était à ma droite, un peu derrière, et Lucien à gauche, en avant. Quand je levais la tête pour lire le haut de chaque nouvelle page, je la voyais, l'œil fixe, écoutant. Quelquefois, elle souriait un peu du coin des lèvres. D'autres fois, elle me regardait pendant que je lisais, et je sentais ses yeux sur moi. Pendant le premier acte, j'étouffais, on ne disait rien. Anténor seulement applaudit un peu à la fin. J'entamais le second avec feu. Je me montais la tête, m'excitant à l'audace et voulant assister de suite à tous les effets de la scène, nuançant soigneusement les rôles, m'imaginant les entendre dire et bientôt moi-même perdu dans l'illusion de ma pièce. Alors, tout alla bien. Les tirades se déroulaient, la période courait au galop, les scènes allaient, on applaudissait, je déclamais de toute mon âme. Je criais, je suais, mon sujet m'emportait, je m'y laissais entraîner avec délire, je frappais du pied, je gesticulais à l'aise, j'aurais joué sur le théâtre. Oh, je ne tremblais plus, je n'entendais rien, je ne voyais rien, si ce n'est de temps à autre le visage de Lucinde que j'apercevais rapidement, comme dans un éclair, à chaque feuillet que je tournais, et ma force redoublait. Tu sais que le cinquième acte n'était pas fait. Je promets de le lire le lendemain, et dès le soir, je me mis à l'œuvre. La pièce leur plaisait, elle était reçue. Elle-même, Henri, elle-même, de ses deux mains, elle m'applaudit. Comprends-tu ça? Je vais être joué, moi, joué par des acteurs, ici, sur un théâtre, et c'est tout à l'heure que je vais leur lire mon cinquième acte. Rentrez, je déclare tout, je brise tout. Oh, je voudrais savoir ce qu'on m'objectera, ce sera drôle, ce sera risible. Après ça, les bourgeois sont si bêtes, et les parents sont si stupides. Quelle nuit j'ai passé, Henri. L'amour n'en donne pas d'aussi fiévreuse. Je n'ai d'abord pas pu écrire tant j'étais ému. J'avais la plume dans les mains, mais je frissonnais de joie, je tremblais. J'essayais de me calmer. Je voulais penser, impossible. Malgré moi, j'entendais déjà les applaudissements claquer du haut des loges et des bruits de voix humaines murmurer des louanges avec mon nom. En vain, je rappelais 100 fois mon esprit, qui me traînait en avant vers un horizon radieux, sur une pente pleine de vertiges. Un démon me harcelait. « Hardy, Hardy !» me disais-je, « hâtons-nous !» Et ma main courait sur le papier avec frénésie, désolé d'avoir besoin d'écrire pour fixer ma phrase, et regrettant qu'aussitôt née, l'idée n'est pas sa forme toute faite et qu'il faille attendre pour la pétrir et la tailler. Et quelquefois, fatigué d'impatience, je m'élevais, je marchais à grands pas, récitant tout haut ma tirade avant qu'elle ne fût finie, et puis je revenais à ma table l'écrire avec transport. Joyeux de la tenir, inquiet de celle qui allait suivre, heureux de sentir s'achever mon œuvre, et déjà orgueilleux d'elle, comme la jeune mère qui, à travers ses douleurs, entend les vagissements douloureux de son premier nouveau-né. 9 heures du soir, je voulais cacheter ma lettre et te l'envoyer en revenant du théâtre, quand j'aurai lu mon cinquième acte, pour te dire le reste, mais la lecture est remise à demain. J'ai été à l'hôtel de Bernardi. Il est malade, je l'ai trouvé couché, entouré de citrons et de morceaux de sucre. C'est le vieux, celui qui fera le prieur, qui le soigne tout en lui faisant des cigarettes de Marilla. Adieu, cher Henri. Dans 2 ou 3 jours, tu recevras de moi une nouvelle épître. Réponds-moi, tu sais si je t'aime, Jules. Post-scriptum. Tu seras ici, n'est-ce pas, quand on me jouera? Je compte sur toi. D'ailleurs, tu viendrais bien exprès. Adieu. Le jour qu'Henri lut ces lignes, Ternande avait apporté le matin un bouquet de fleurs à Madame Renaud. Elle l'avait trouvé charmant, délicieux, et l'avait mis elle-même dans un des vases de porcelaine qui ornait sa cheminée. Depuis quelques jours aussi, elle évitait Henri et baissait les yeux quand il la regardait. Quelquefois même, elle embrassait son mari, qui était bien en effet le meilleur homme du monde, et qui lui rendait de suite 2 gros baisers à lui enlever les joues, de ces baisers insolents d'époux légitimes, que ceux-ci donnent en public à leur moitié avec un cynisme si naïf qu'il faut en rire et non en vomir. La veille au soir, en montant l'escalier, comme Henri, qui marchait le dernier, avait voulu lui prendre la main par derrière pour la baiser, ne l'avait-elle pas brutalement repoussée tout à fait? Déjà, quelque temps auparavant, dans une longue conférence qu'ils avaient eue ensemble, elle lui avait dit que tout était fini entre eux, qu'il n'y fallait plus songer, qu'il le devait comprendre, qu'en tout cas, ce qui s'était passé n'avait jamais été qu'un jeu, qu'un enfantillage, auquel il ne fallait pas se laisser prendre. Oh, elle connaissait ses devoirs, elle y voulait tenir, elle le disait du moins. Une intrigue d'amour est comme une navigation fluviale. On s'embarque par un beau temps, la voile déployée, le courant vous pousse rapidement, vous ramez ferme, suant sur l'aviron et dépassant vite vos rivaux. Puis, tout à coup, le calme arrive, la voile tombe, les cloches vous poussent aux mains. L'ennui arrive à son tour avec le dégoût et la fatigue. Sans l'entêtement, le parti pris, la vanité, on en resterait là, ou bien on descendrait sur le bord pour se rafraîchir dans un cabaret et faire un somme. Heureux ceux qui, revenant le soir, couchés au fond de la chaloupe, chantent à pleine poitrine et trouvent la nuit belle. Or Henri, qui était dans un moment de calme, à regarder de quel côté soufflerait le vent, irrésolu et un peu ennuyé, ne demanda pas mieux que de participer à toutes les joies exposées dans la lettre de son ami. Comme il était jeune et encore facile à l'émotion, je dois avouer qu'il les comprit et qu'il s'associa à son enthousiasme. Néanmoins, en relisant le portrait de Lucinde, il la compara à Madame Renaud, qu'il trouva plus belle, car il préférait les brunes, étant né avec ce goût-là.